Allez, le mot de la semaine, c'est la trêve.
Avant de nous dire adieu.
J'ai dansé des slows là-dessus. Non, mais ça me rappelle des très très bons souvenirs. Je vous dirai pas quoi, mais... Allez, une surprise, mais pas pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord, au moins, pour une trêve, avec une baisse drastique des droits de douane punitive. Vous vous rappelez, les 125%, les 145%, bon, tout ça, c'est fini, on est à 30, on est à 10. Bon, est-ce que, Jean-Marc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avec quelles conséquences pour l'économie mondiale?
Je suis assez surpris de votre enthousiasme à l'idée que ce soit vraiment la trêve. On n'en sait rien. Dans une semaine, ça peut être remis en cause.
J'y crois pas
ça,
du tout. Mais c'est pas grave, je vous laisse parler.
Oui, le gouverneur de la Banque de France, par exemple, François Villeroy de Galhau, commentant l'actualité, non pas dans cette émission, mais sur notre plateau, a dit, en fait, l'économie mondiale subit deux chocs, un choc protectionniste et un choc d'imprévisibilité. Et il dit, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans une semaine. Alors, je pense que cette trêve est liée à la façon dont réagit l'administration républicaine, indépendamment d'ailleurs de Donald Trump. C'est-à-dire qu'ils ont fait un triple constat, à mon avis. Le premier constat, c'est que les droits de douane sur la Chine, c'est les consommateurs américains qui vont les payer. Et Nicolas Gregory Mankiw, qui est un grand économiste américain, dit, moi je vis avec des produits européens, donc ce qui m'intéresse, c'est les droits de douane sur l'Europe, parce que je bois du Chablis, je suis habillé par Hugo Boss, j'ai une Audi, et je passe mes vacances en Toscane. Okay. En revanche, ma secrétaire, elle va chez Walmart, et elle est à 80% avec des produits chinois. Et elle a voté Donald Trump. Donc les mid-termes seront assassines si on maintient des prix chinois plus élevé. Donc, c'est pas un accord entre la Chine et les États-Unis. Ce qui vient de se passer, c'est la prise de conscience par l'appareil républicain que si on continue à taper sur les Chinois, on va au-devant.
Je pensais que vous auriez une vision un peu moins consensuelle et un peu moins microcosme médiatique parisien, quoi. Je pense que vous alliez avoir une vision.
Mais alors après, j'ai deux éléments complémentaires, très vite. Le deuxième élément, si vous voulez,
c'est
que les Américains continuent à vivre au-dessus de leurs moyens, et donc le déficit budgétaire n'arrête pas de se creuser.
Ça, je le répète. Vous l'avez appris, je le répète tout.
Voilà, c'est bien. Donc,
balance des paiements courants.
Et la balance des paiements courants au rendez-vous est dans une situation dramatique.
Je le répète à chaque fois.
Quand vous regardez
maintenant
la situation des finances publiques américaines, vous avez deux postes qui sont les plus lourds. C'est 1000 milliards de dollars, c'est la charge d'intérêt, et 900 milliards de dollars, c'est la défense. Or, dans les deux cas, ce que disent les républicains, c'est que ce sont les étrangers qui en bénéficient. Les 1000 milliards de dollars sont reversés essentiellement aux étrangers, alors pas tout à fait.
Bah, essentiellement, oui, il y a 20%.
Il y en a une partie assez
significative.
30.
Et les 900 milliards, ça sert à protéger les étrangers, c'est ce que disent les républicains. Disons,
pas vrai non plus.
L'OTAN, vu ce que dépensent les Européens, l'OTAN, ça protège les Européens avec notre argent. Et donc, il y a une correction à faire, qui est une correction sur à la fois...
Qui est en cours,
sauf que elle est
grâce à Trump.
Et Elon Musk, et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire, c'est du délire. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens.
Et le troisième point.
Et le troisième point, c'est que, quand on regarde effectivement l'accord, ce que vous annoncez, une trêve, ça reste quand même des droits de douane.
Oui, oui.
Et donc,
ça reste
quand même une perturbation de l'économie mondiale avec une nouvelle, c'est que on ne sait pas si les États-Unis vont pas rentrer en récession. Ce que l'on sait, c'est que le Japon, par exemple, a vu son activité se contracter au premier trimestre. Oui. Donc, dans les économies développées, l'Allemagne est en difficulté.
Oserais-je rappeler...
Le Japon est en difficulté.
Oserais-je
donc, tout le monde est en train de subir les conséquences de la politique de Trump.
Oserais-je rappeler que quelqu'un sur ce plateau m'a expliqué que parfois, il valait mieux moins de croissance, notamment si cette croissance était alimentée par une consommation qui créait des déséquilibres. C'est ce que vous m'avez dit. Et maintenant, vous êtes en train de pleurer parce qu'il va y avoir une récession aux États-Unis.
Non, je suis en train de pleurer parce que face à un État qui est conforme à ce que je raconte et ce que vous avez bien compris, c'est-à-dire que la consommation est excessive aux États-Unis, c'est d'ailleurs ce que dit, par exemple, Scott Bessent, le secrétaire...
Je lui parlais la semaine dernière.
Oui, donc il confirme, il dit, écoutez, il faut que les Américains redécouvrent le sens du travail et de l'État. Sauf que la réponse par rapport à ça, c'est pas de faire des droits de douane. La réponse, normalement, c'est de faire des vraies réductions de dépenses publiques, de se poser effectivement des questions sur le budget de la
défense. Mais c'est bien de faire quelque chose quand même, plutôt que de rien faire comme on fait chez nous.
Ah, il vaut mieux ne rien faire que faire des conneries.
Ah oui.
C'est le grand principe
que ce soit
de la médecine, c'est primum non nocere. Avant de faire quoi que ce soit, il faut éviter de nuire.
Oui. Là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est quoi qu'il se passe, moi je pense qu'il y aura deal. Quoi qu'il se passe, il y aura deal, mais à la fin, il y aura des droits de douane.
Exactement.
Quel impact sur l'économie?
Exactement. Pour moi, ce qu'il faut, il y a une trêve, etc. Mais on est quand même dans, on ne sait pas un retour à la case départ.
Non, non.
Le monde a changé. On va avoir des droits de douane.
Voilà, ça on le sait.
Des droits de douane plus élevés. Et c'est surtout pas la fin de l'histoire. Il y a une volonté de l'administration Trump de réindustrialiser l'économie américaine. Après, on trouve ça bien, pas bien, etc. Mais c'est quand même cette volonté. Ils vont toujours. Pour moi, l'idée d'augmenter les droits de douane, c'est juste une étape dans le programme de Trump. Ce n'est pas une fin en soi.
L'impact sur l'économie pour vous, c'est quoi? Parce que Jean-Marc nous dit, attention, si on continue à tuer ce que vous dites, Jean-Marc, hein,
oui.
En gros, s'il y a même des accords, mais il va y avoir des droits de douane. S'il y a des droits de douane, il y aura un ralentissement, voire récession.
Exactement. Il y a un ralentissement, mais la volonté de Trump n'est pas de s'occuper de l'économie américaine pour les 12 prochains mois. Il y a une volonté de changer le modèle économique américain, d'avoir une réindustrialisation de l'économie. Et ça va avoir un coût pour la croissance sur les 12 prochains mois. Mais ça, il le savait. Un coût en termes d'incertitude, incertitude, on le voit, hein, sur les entreprises, les ménages, et un coût aussi en termes d'inflation, quoi. Mais c'est une volonté de changer le modèle économique, de réindustrialiser. Après, on peut très bien justifier...
De réindustrialiser et de réorienter la consommation,
de
voire
réorienter,
la diminuer.
Exactement. Mais
on devrait être content qu'on cherche
après,
à diminuer la
après, la justification, elle n'est pas économique pour moi. Parce que si on regarde ça d'un point de vue économique, on peut dire que ce n'est pas justifié. Là, il justifie, quand on écoute les discours de Scott Bessent ou de Vance, la justification de cette volonté de réindustrialiser, c'est pour des raisons de sécurité nationale et aussi pour des questions de main-d'œuvre, d'équilibre social. Et ce qu'ils mettent en avant, c'est il y a un risque quand il y a une montée en puissance, enfin, qu'il y a une montée, par exemple, la Chine aujourd'hui est en train de monter sur la chaîne de valeur et est devenue un partenaire très sérieux dans les secteurs de la technologie pour les États-Unis. Donc, c'est plutôt un risque de sécurité nationale qui justifie cette volonté de réindustrialiser.
Louis de Montalembert, même si vous êtes gérant, je vous laisse parler en première partie de l'émission, mais très brièvement.
Vous êtes aimable. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une vraie tentative de réindustrialiser. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie du narratif et du discours électoraliste, mais que, de manière réaliste, c'est totalement faux d'imaginer que ce qui est fabriqué en Chine, les t-shirts, les chaussures, toutes les
mais
choses en plastique
but, hein.
vont être fabriquées aux États-Unis.
C'est pas ce que dit Valentine. Valentine dit produits stratégiques relocalisés. Et le reste, à la limite, la secrétaire de votre
ami
économiste, elle consommera moins de produits chinois. C'est pas dramatique non plus.
Mais non, elle consommera.
Au lieu d'acheter deux t-shirts, elle en achète qu'un.
On ne peut pas faire descendre le pouvoir d'achat d'une.
Non, pas descendre le pouvoir d'achat
des Américains. Mais si, écoutez, le gros de la valeur.
On peut réduire. Attendez, on a toujours dit que les États-Unis surconsommaient. On peut réduire une partie de la consommation.
Non, mais là, vous êtes un décliniste. En fait, vous parlez comme les déclinistes qui disent qu'il faut moins consommer. C'est pas
opératoire. Non, je parle comme les adeptes de Jean-Marc Daniel qui disent une partie de la consommation, c'est comme le cholestérol,
écoutez,
ça peut être mauvais.
Les Américains vendent du jus de cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une paire de Nike qui arrive de Chine, en réalité, 90% de la valeur est captée par les États-Unis.
Oui.
D'accord? C'est pas les 10% de valeur qui sont captées par la Chine pour la production qui ont véritablement du sens. Donc, je pense pas qu'il du sens pour les Américains de réinternaliser la production des Nike.
François, je passe la parole.
On parlait de la présibilité du président Trump. Il y a beaucoup d'anti-Trump partout, tout le temps.
Ouais.
Moi, j'ai un peu le constat de dire qu'il a quand même un track record économique, premier mandat plutôt favorable. Et depuis le début là, il a quand même réussi quelque chose qui est un tour de force que je trouve moi, en tout cas, inimaginable au début, c'est parvenir à multiplier par 4 les droits de douane sans que le monde s'écroule et qu'il y ait eu des levées de boucliers ou des revanches extrêmement pénalisantes pour l'économie américaine. Et donc, je crois qu'il faut du temps.
Ouais, et contrairement à ce qui se dit, je pense pas que...
Il est peut-être en train de gagner. Ce que je voulais juste te dire, là, c'est peut-être qu'il est en train de gagner son pari.
Et moi, là où je suis pas d'accord avec vous, Jean-Marc, c'est que je trouve pas que ce soit imprévisible. On voit très bien où il va, quoi.
Non, je pense pas qu'on voit où il va. D'abord, rappelons quand même que les États-Unis, quand on regarde donc les déficits de balance des paiements courants, quand on regarde comment ils sont répartis à la surface de la planète, les deux tiers du déficit global des pays qui sont en déficit, ce sont les États-Unis.
Ouais.
Les États-Unis, c'est 900 milliards de déficit de leur balance des paiements courants, 900 milliards de dollars. Le pays qui vient après, c'est le Royaume-Uni, avec 80 milliards de déficit de sa balance des paiements courants. Vous vous rendez compte de la disproportion qu'il y a. Et donc, la conséquence de ça, c'est que la souveraineté des États-Unis, c'est pas de produire sur place, c'est de continuer à être propriétaire des gens qui sont sur place. Parce que ces 900 milliards de dollars, ils deviennent quoi? C'est ce que raconte là aussi Donald Trump dans son premier mandat. Quand il voit passer des Audi et qu'on et qui dit, écoutez, voilà, est-ce qu'on n'est pas capable de produire nous aussi des automobiles, et son conseiller à côté lui dit, mais l'enjeu, c'est pas les automobiles qu'on achète, c'est le fait que l'hôtel dont nous quittons le bar est propriétaire des fonds de pension japonais. C'est-à-dire que les États-Unis sont le pays le plus détenu au monde, et leur souveraineté n'existe plus, non pas parce qu'ils ne produisent pas, mais parce qu'ils ne sont plus propriétaires, parce qu'ils sont en déficit de leur balance des paiements courants. Donc la réponse à ça, c'est de rétablir l'épargne, c'est ce disque Bessent, et là où je suis assez d'accord, c'est-à-dire que soit on rétablit l'épargne de façon punitive, c'est-à-dire on baisse la consommation par des droits, et la conséquence, c'est qu'il va perdre les élections de mi-terme, et soit effectivement...
Ouais, mais on peut pas lui reprocher à la fois de faire du populisme et à la fois de risquer de perdre les élections en faisant quelque chose que vous-même vous trouvez finalement vertueux.
Fondamentalement, son discours là aussi, c'était de dire je vais rétablir les finances publiques. Ça a été cette espèce de mascarade de Elon Musk. Maintenant, il en est à dire qu'il va augmenter les impôts, alors qu'il avait annoncé qu'il augmenterait pas les impôts. Là, il a annoncé que finalement,
il y avait des gens... vous y croyez pas du tout.
Ah non, mais c'est vraiment n'importe quoi.